Aujourd'hui, nous recevons M. Jean-Pierre Le Goff. Jean-Pierre Le Goff est sociologue au laboratoire Georges Friedman Paris-1, CNRS. Ces livres, vous pouvez les retrouver. Je cite les trois derniers titres. Les illusions du management aux éditions La Découverte, Paris, paru en 1996. Mai 68, L'héritage impossible, toujours à La Découverte, en 1998. Et enfin, La barbarie douce, l'aveugle modernisation de l'entreprise et de l'école, toujours à La Découverte, et qui est paru tout récemment en 99. Voilà, Jean-Pierre Le Goff, nous vous écoutons.
Bien, je vous remercie. Je voudrais vous dire quelques mots en introduction pour éviter un certain nombre de malentendu sur le contenu de mon intervention. D'abord, mon propos ne va pas consister ce soir à vous exposer un vaste panorama ou une typologie des différents courants du management, d'une part. D'autre part, je ne vise pas non plus, si vous voulez, à exposer des principes ou à rendre compte des différentes pratiques qui existent sur le management. Je pense que d'autres peuvent le faire. Ce n'est pas le sujet que je vais traiter. Non pas que je ne le trouve pas intéressant en lui-même, mais ce n'est pas celui que je vais traiter ce soir. Je ne vais pas non plus vous exposer la énième méthode en matière de management ou d'outils. Mon propos est moins, je dirais, d'introduire un savoir, au sens strict du terme, qu'un recul réflexif et critique sur un certain nombre de discours et d'outils managériaux qui, me semble-t-il, se sont développés, je dirais, depuis les années 80 et qui, aujourd'hui, ont pénétré, entre autres, le service public. Il s'agit, à mon sens, d'opérer donc un recul réflexif et critique. Et je crois que développer l'esprit critique, c'était d'ailleurs un des idéaux premiers de l'éducation populaire. Et on disait rendre la raison populaire, développer l'esprit critique, c'est un idéal personnellement auquel je tiens. Comment comprendre le management ? Alors, il est vrai que il existe un certain nombre de dysfonctionnements et de multiples problèmes de gestion de production et des collectifs de travail. Je crois que le constat sur ce point est vrai. Et dans ce cadre, la première approche du management est une approche, je dirais, très fonctionnelle, très pragmatique et fonctionnelle, c'est-à-dire qui vise à améliorer l'efficacité, la productivité et la qualité dans la production des biens et de services. Cette activité, quand vous prenez cette définition minimale, met en œuvre des méthodes, des outils, qui se présentent d'ailleurs comme des outils et des techniques neutres, c'est-à-dire des moyens au service de ces fins qui sont le développement de l'efficacité, de la productivité et de la qualité. Telle est l'approche, à mon sens, fonctionnaliste, minimale du management. Mon propos n'est pas de nier cette dimension, fonctionnelle. Je crois qu'il existe des nécessités fonctionnelles et rationnelles qui sont liées à tel ou tel domaine d'activité et des contraintes et des logiques propres qui existent, qui sont liées à la reproduction et au développement de la vie sociale, gestion de la production, de la collectivité, visant à la satisfaction des besoins vitaux. Je partirai de cette définition, si vous voulez, extrêmement minimale du management pour dire que, bien, certes, on peut envisager les choses comme ça, mais que ce n'est qu'une approche. Deuxième type d'approche, on veut dire que cette activité, qui se veut pragmatique et fonctionnelle, intervient dans un cadre économique donné et qu'elle subit aussi un certain type de logique économique, avec un certain nombre de pressions et de contraintes. Là aussi, mon propos n'est pas de nier cette seconde approche. Simplement, je pense que ces deux approches n'épuisent pas la réalité du management. En effet, lorsque vous vous plongez dans ce que j'appellerais une abondante littérature, lorsqu'on écoute un certain nombre de spécialistes, pas tous, mais beaucoup, force est de constater que le discours tenu va bien au-delà de la dimension fonctionnelle et pragmatique dont on se réclame. Je crois que c'est un phénomène connu. Certains y voient d'ailleurs des effets de mode. Et je crois qu'effectivement, le management connaît des effets de mode. Je ne vais pas reprendre tous les outils qui se sont développés depuis les années 80, mais il y en a un certain nombre, et ça se renouvelle un peu sans cesse. Et puis, il y a aussi, excusez-moi l'expression, dans ce secteur comme dans d'autres, c'est un secteur marchand, on propose des outils et des méthodes, on est dans des rapports marchands, et certains vous diront que la qualité de ce qui est offert n'est pas extrêmement forte. Et là aussi, je crois que c'est vrai. Le problème, c'est que je pense que là aussi, ça ne suffit pas pour expliquer un certain nombre de phénomènes. Je m'attache précisément, enfin c'est mon propos, à essayer de mettre à jour les représentations développées par le management et ce que j'appellerais un projet proprement fantasmatique qui l'anime. Et ce projet, en essayant de cerner ces représentations, je n'aurai pas le temps de le faire peut-être ce soir, mais ce qui est intéressant, c'est de mettre en rapport, si vous voulez, ces représentations du management, plus ou moins conscientes, que n'ont pas forcément d'ailleurs le recul, les acteurs n'ont pas forcément le recul sur ces représentations, mais il est intéressant de mettre en rapport donc, ces représentations avec la façon dont les salariés, dans nombre d'entreprises, appréhendent le réel et sont confrontés à l'épreuve du réel, je dirais, dans leur activité quotidienne de travail. L'écart, dans tous les cas, entre un certain nombre de représentations et ce que j'appelle une idéologie du management et la réalité appréhendée par ceux qui travaillent et sont confrontés aux limites du possible dans leur activité, cet écart me paraît considérable. Alors, s'attaquer aux représentations, ça ne va pas de soi. Pourquoi ? Parce que la façon dont on présente souvent le management, c'est, pour ceux qui le pratiquent, ils ont une éthique de la bonne intention. Et je ne la remets pas en cause. Et ils ont des outils. D'ailleurs, le couplage, si j'ose dire, éthique de la bonne intention et outils est quelque chose d'assez déconcertant. Pourquoi ? Parce que si vous essayez de dépasser la dimension de l'éthique, de la bonne intention, pour essayer de cerner les logiques qui sont en œuvre, les représentations, vous dites, mais je ne comprends pas, et j'ai eu beaucoup de réflexions de cet ordre-là, je ne comprends pas, je n'ai jamais voulu faire ça. Or, un des premiers principes du management, précisément, c'est de prendre en compte les effets non voulus de ces discours et de ces pratiques. Il y a un premier principe, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je trouve que dans le management, on l'oublie, à mon avis, de façon importante, parfois. Donc, prendre la distance, introduire un recul réflexif sur les représentations n'est pas facile. Pourquoi ? Je citerai simplement une citation de Claude Lefort, qui est un philosophe que j'apprécie particulièrement. Il écrit ceci. « La vie sociale est tissée de représentations. Il y a un monde de représentations et de croyances qui se cristallise dans des représentations. Or, toucher à la croyance et à la représentation est risqué. » Chacun souhaite que l'on renvoie à des causes visibles, qu'on produise des faits. C'est que les faits, nous pouvons les tenir à distance, tandis que les représentations ne sont rien sans nous. Or, le discours idéologique que je vais essayer un peu de cerner est précisément, je dirais, structuré autour d'un certain nombre de représentations. Et encore une fois, ces représentations imprègnent les acteurs. Je dirais qu'ils sont à la fois sous l'emprise de ces représentations sans en avoir forcément conscience et qu'ils en viennent aussi les diffuseurs. Voilà donc, si vous voulez, expliciter ma démarche. Je vais donc exposer ces thèmes clés qui, à mon sens, structurent l'idéologie managériale. J'en prendrai trois. D'abord, une représentation du monde et de ses évolutions. Deuxième point, une conception de l'homme nouveau, adaptée à ses évolutions. Et le troisième point, ce que j'appelle la reconfiguration du pouvoir, tel que le dessine cette idéologie. La représentation du monde et de ses évolutions. L'idéologie managériale, à mon sens, dresse un chaos extrêmement chaotique des évolutions du monde dans tous les domaines, de telle sorte que celui me paraît apparaît ou peut apparaître proprement insignifiant et vain. Je vais essayer de développer ce point. Il est clair. Dans l'espace d'une vingtaine d'années, les transformations opérées dans les entreprises sont considérables. Et d'autre part, il est clair aussi qu'il y a un certain nombre d'évolutions techniques, scientifiques, économiques. Là aussi, mon propos n'est pas de nier ces évolutions. Et je crois qu'il est d'ailleurs tout à fait légitime que ceux qui sont en situation de responsabilité regardent de près ces évolutions, sans pour autant céder à une sorte de fuite en avant et une espèce de fascination qui peut exister vis-à-vis, notamment, j'y reviendrai, des nouvelles technologies. Je disais que l'idéologie managériale dresse un tableau bien particulier. Premier trait caractéristique, si vous voulez, de ce tableau, c'est ce que j'appellerais une thématique révolutionnaire. Ce qui me paraît frappant quand vous regardez un certain type de discours managérial, c'est que la thématique révolutionnaire de la table rase et de la rupture, je dirais, elle a changé de camp. Elle est largement développée dans un certain type de discours managérial. C'est-à-dire que les changements nous sont sans cesse présentés comme radicaux, et révolutionnaire, changement radical du travail, reconstruction radicale du cadre institutionnel du travail. Et pour citer un spécialiste du management, les changements sont encore plus radicaux, s'il se peut, que la deuxième révolution industrielle survenue au milieu du XIXe siècle ou que ceux des bouleversements structurels provoqués par la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale. Le problème, si vous voulez, c'est que dans cette radicalité, elle n'a pas de fin. Ce qui est dit à un moment comme radical, à ce qui est dit à un moment comme radical, succède une nouvelle évolution qui est encore plus radicale que l'autre. Et on s'oriente dans une espèce de course folle. Les changements sont radicaux et impliquent, j'allais dire, des comportements qui doivent être tout autant radicaux. La logique, d'ailleurs, économique, dit-on, le commande. Je cite un manager américain qui dit ceci. La première des politiques, fondement de toutes les autres, consiste à abandonner le passé. La première politique de changement, donc, dans l'ensemble de l'institution, ça doit être l'abandon organisé. Le leader du changement met en question l'existence de chaque produit, de chaque service, de chaque procédé, de chaque marché, de chaque circuit de distribution, de chaque client, de chaque débouché. L'entreprise est condamnée au changement, elle est condamnée à agir. On le comprend, puisqu'elle est articulée au marché. La question qu'il faut poser, c'est quelle est la limite à ce changement. Et deuxième question, qu'en est-il des hommes qui travaillent dans ce collectif entreprise, qui d'ailleurs, là aussi, vision de l'entreprise, qui, une fois créée, est immédiatement, devient très de plus en plus rapidement obsolète. Changements radicaux, rupture. Changements révolutionnaires, révolution technologique, révolution de l'information, révolution de l'intelligence. Toutes ces formules abondent dans la littérature et dans les discours. D'ailleurs, si on suivait cette logique, pour paraphraser, Trotsky et aussi Mao Tse-Tung, on pourrait dire que la révolution développée par ce discours managérial est à la fois permanente et internationale, mondiale. Mais elle est aussi en même temps une révolution culturelle, puisqu'il s'agit de remettre radicalement en cause une certaine façon de travailler, de vivre et de penser telle qu'elle nous a été transmise tant bien que mal par les générations antérieures. Et aussi, il s'agit de lutter contre l'égoïsme ou les corporatismes ou les défenses que les gens ont vis-à-vis de ce changement. Disant ça, je pense qu'effectivement, qu'il y a des résistances au changement qui existent, qu'il y a des corporatismes, mais qu'analyser les résistances au changement en formule, d'ailleurs, extraordinaire, les analyser, les prendre en compte, suppose, à mon avis, de voir bien autre chose que cette vision extrêmement manichéenne et simpliste de résistance subjective. Cette notion de résistance subjective au changement veut tout dire et ne veut rien dire. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, l'adaptation devient révolutionnaire parce que les évolutions dans tous les domaines, d'une certaine façon, sont censées imposer d'elles-mêmes, des façons radicalement nouvelles de penser, de vivre et d'agir. La révolution, donc, développée par l'idéologie managériale, elle est culturelle, elle est permanente, mais je dirais qu'à la différence de l'idéologie révolutionnaire, elle ne paraît pas vraiment en mesure de tracer, les contours d'un avenir radieux, comme l'idéologie révolutionnaire nous le promettait. Deuxième trait caractéristique de ce discours, le rythme de ce qu'on appelle le renouvellement des facteurs du changement. Eh bien, ce rythme s'accélère de telle façon qu'il semble pour le moins difficile d'établir des éléments de stabilité, d'anticiper les évolutions. Anticiper les évolutions, si ce que vous observez est immédiatement en train de changer et à peine le repère a-t-il disparu que quelque chose d'autre arrive, eh bien, on vous dira qu'il faut passer d'une vision statique à une vision dynamique et fluide. Mais la fluidité paraît telle qu'il est difficile de fixer un certain nombre de repères nets. D'ailleurs, une spécialiste de l'analyse des emplois disait ceci. Les emplois paraissent à ce point instables qu'au fur et à mesure qu'on les observe, ils sont déjà en train de se déformer et de se recomposer. Et les compétences, les fameuses compétences, elles sont en réactualisation permanente pour préparer à des emplois mal connus et évolutifs. Comment d'ailleurs saisir cette réactualisation permanente des compétences pour préparer à des emplois mal connus et évolutifs ? Je dirais, pour un peu paraphraser ces formules, qu'anticiper un avenir flou dans une situation mouvante, ça relève quand même de la gageure. L'environnement paraît à ce point mouvant, complexe, qui peut d'ailleurs paraître tout à fait vain de vouloir le maîtriser. Et qu'est-ce qu'il compte ? Eh bien, il compte avant tout dans cette situation de gérer la complexité. Gérer la complexité. Le mot « complexité », d'ailleurs, est une notion sur laquelle il faudrait s'arrêter, parce qu'on peut y mettre vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs, il y avait un colloque dans les années 80 qui s'appelait, je crois, « Du bing-bang à l'entreprise, gérer la complexité ». Cette Le mot a été mis véritablement, excusez-moi l'expression, passez-moi l'expression, à toutes les sauces. Je ne dis pas que les choses sont complexes, mais il y a une façon de ne rien dire qui consiste à dire que tout est dans tout et réciproquement, et que les choses sont tellement complexes qu'il est difficile de les saisir. Et une fois qu'on a dit ça, je ne pense pas qu'on ait dit véritablement grand-chose. Dans une période révolutionnaire, écrit Peter Drucker dans son livre « L'avenir du management », le changement est la norme. J'aimerais qu'on s'arrête là-dessus. Que penser d'une norme qui n'aurait aucune stabilité ? Comment le changement peut-il être une norme dans la mesure même où l'idée de norme implique un minimum de référence stable ? Cette formule me paraît pour le moins paradoxale, mais fait partie de ces paradoxes qui nous sont, je vais dire, diffusés par cette idéologie. Si tout change et se modifie aussi vite que les choses apparaissent, comment s'y retrouver ? Tout devient, je dirais, mouvant et instable, emporté dans un mouvement de changement perpétuel qui paraît à lui-même sa propre fin, autoréférentiel, sans repère fixe et durable auquel s'accrocher. Je parlais de la référence aux nouvelles technologies et à la mondialisation. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais alors là, on trouve, si vous voulez, c'est une des pointes de ce discours du changement. D'ailleurs, il y a un problème, parce que ça progresse plus vite que l'évolution des mentalités, des compétences, des structures économiques, que la course effrénée pour attraper le changement est sans fin. Il n'y a pas de fin à cette course perpétuelle. Et je crois que le problème, je parlais d'une vision chaotique du monde, la société dans lequel, et le monde dans lequel nous vivons perdent leur familiarité et, je dirais, leur humanité. Ils ne sont plus reconnaissables. Et d'ailleurs, il ne semble guère y avoir d'autre solution que de remettre en cause des façons, de, encore une fois, de travailler, de gérer, ou je dirais des façons de vivre et de penser qui nous ont été transmises, là aussi, encore une fois, à travers les différentes générations. Nombre de conseillers, d'ailleurs, en management, peuvent se considérer, plus ou moins consciemment, comme j'appellerais un peu les émancipateurs de l'ère nouvelle. Par exemple, vous trouvez des formules absolument extraordinaires. Travailler la motivation. Il y a des régimes qui se sont essayés. Que veut dire travailler la motivation ? Est-ce que la motivation, ça se travaille ? Modeler le comportement des individus. Inculquer l'esprit d'initiative et d'innovation. Mieux. Graver une matrice dans l'esprit des salariés. C'est comme si ces nouveaux ingénieurs des âmes, vous savez, cette formule des ingénieurs des âmes, elle vient de Lénine et de Staline à propos des artistes. Il y avait les ingénieurs, c'était le matériel de production. Il y avait peut-être aussi les gestionnaires, mais il y avait les artistes. Les artistes avaient un avantage, si je puis dire, c'est qu'ils connaissaient bien l'âme humaine et pouvaient la travailler en vue de l'optimum productif, pour stimuler la production. Ces nouveaux ingénieurs des âmes, donc, ont une prétention qui me paraît ne pas aller de soi. Et je dirais que dans un monde chaotique, en plein bouleversement, constamment en plein bouleversement, la mobilité, la réactivité, la flexibilité, comme on dit, sont des valeurs de référence, tandis que l'exigence de stabilité devient synonyme d'immobilité et tout simplement de refus de changement. J'en ai terminé avec cette première représentation. Je voudrais essayer de cerner la seconde qui est liée. La représentation de l'individu qui se développe à travers à la fois ses discours, ses textes, ses théorisations, mais aussi des outils, ces outils qui se veulent neutres, objectifs. Je pense que la représentation qui nous est donnée de l'homme adapté à ce changement est un individu qui doit être à la fois autonome et responsable. J'aimerais qu'on s'arrête sur ce que ça veut dire. Autonome et responsable, quel contenu est donné précisément à ces notions ? Un individu, je dirais aussi, constamment à l'optimum de ses performances et totalement impliqué dans son activité. On est dans le domaine, je vous l'ai dit, des représentations. Alors, prenons les choses un par un. Je dirais qu'il y a d'abord un modèle aliénant de l'autonomie. L'idéologie managériale renverse les notions d'autonomie et de responsabilité et, en fait, me semble les rendre synonymes de servitude. Première remarque. L'autonomie est affirmée sur le mode d'une injonction paradoxale. Soyez autonome, soyez responsable. Précisément, on vise à faire acquérir sur un mode impératif un type de comportement qui est précisément contradictoire avec ce qu'on vise. C'est-à-dire que si l'individu se soumet à cette injonction, eh bien, il cesse précisément d'être autonome, tout en lui disant « sois autonome ». Et donc, ça place les individus, je dirais, dans une situation de déstabilisation et de conflictualité un peu permanente. Je ne vais pas reprendre les analyses du Double Bind, c'est-à-dire d'un psychiatre américain qui avait noté précisément ce phénomène qui consiste à émettre simultanément deux types de messages contradictoires qui enferment ceux qui reçoivent ces messages dans une situation impossible qui peut verser dans la schizophrénie. Autonomie, soyez autonome, mais pourquoi faire ? Je dirais que l'autonomie est considérée comme un mode de, une norme de bon comportement auquel se conformer. Comportement d'ailleurs qui est évalué, puisque dans les outils d'évaluation, la compétence, l'autonomie devient une compétence, est une des premières compétences évaluées. Pourquoi faire ? Eh bien, pour faire face au changement. Je cite, « Il s'agit de se gérer soi-même ». Extraordinaire formule. Et d'ailleurs, Peter Drucker parle d'une révolution, là aussi, puisque se gérer soi-même, c'est une révolution dans les affaires humaines, ni plus ni moins. Cela exige de la part des hommes, et notamment des travailleurs du savoir, qui sont bien évidemment différents des travailleurs manuels, qu'ils fassent des choses nouvelles sans précédent. Cela suppose un virage à 180 degrés dans les pensées et les actes de la plupart d'entre nous, de la jeune génération, dans ce que nous tenons encore pour assurer dans nos façons de penser et d'agir. Alors, ça aussi, ça se présente, tout ça, comme des évidences. Quelles sont les conséquences, d'une telle pression de l'autonomie ? Bien, chez les individus, la question ne peut manquer de se poser. Quels sont mes points forts ? Quels sont mes points faibles ? Où est ma place ? Et il s'agit, dit-on, que les individus assurent eux-mêmes leur propre développement pour être capables d'être autonomes. Donc, existe d'ailleurs un certain nombre d'outils d'évaluation sur le degré d'autonomie, outils d'évaluation, outils de formation qui vont leur permettre, en entrant dans un processus, de devenir autonome. Donc l'individu a un nouveau poids de responsabilité au nom de l'autonomie qui consiste à être responsable, du changement, formule de son propre changement. Être responsable du changement, mais aussi de son propre changement, c'est s'engager dans un parcours de développement personnel. Toutes ces notions, vous les trouvez, elles se promènent un peu partout, et pas simplement dans l'entreprise. Je dirais que c'est comme si l'individu devait s'appliquer les nouvelles normes du management et se sentir responsable de, de leur bonne ou mauvaise application. Les écarts, d'ailleurs, par rapport à ces normes, quand vous regardez l'autonomie, eh bien, ça fait partie de ses propres faiblesses. Pourquoi ? Bien parce que l'autonomie met hors champ les conditions sociales, les conditions concrètes de travail, et tend de fait à rendre les salariés responsables de leurs compétences et de leurs performances dans l'entreprise, et finalement de leur employabilité sur le marché du travail. D'ailleurs, le terme, compétences, évaluation des compétences, employabilité, est aujourd'hui, ces termes sont très couplés. Les plus faibles me semblent être précisément les premières victimes de cette logique qui peut aboutir d'ailleurs à une inversion des rôles et des responsabilités, puisque les salariés doivent être autonomes dans le travail, mais ça peut aller très loin si on poussait au bout de cette logique, et certains conseillers en management et idéologues l'ont fait, je les cite. Si les actifs doivent être réduits, il appartient aux employés les plus concernés par l'opération de le faire. Ils sont autonomes et responsables. Si les dépenses ont dérapé, ils ont la responsabilité de les réduire. Et si le travail peut être effectué par moins de personnes, la décision d'accroître la productivité ou de diminuer les effectifs leur revient. C'est logique. Cette nouvelle philosophie de l'organisation dans l'entreprise individualisée, formule d'ailleurs que je trouve là aussi extraordinaire, doit permettre aux employés, dans les limites de l'entreprise, de penser et d'agir comme s'ils étaient des entrepreneurs autonomes. Les choses sont dites. C'est-à-dire des salariés, autonomes de toute référence, de toute protection du droit du travail, s'identifiant à la direction, et non seulement ça, décidant eux-mêmes en toute transparence, parce qu'il s'agit bien évidemment de ne rien cacher, de leur propre licenciement. Là, on arrive, à la figure accomplie de l'autoservitude qui va jusqu'au sacrifice. Et je dirais que le modèle, l'idéologie libérale, pas le libéralisme, mais l'idéologie libérale rejoint ce modèle de l'autonomie comme une des figures de la déréglementation. Deuxième trait, le modèle de la performance. Quel modèle de la performance ? Depuis les années 80, il y a un modèle de la performance que j'appelle sans faille, la performance totale. Et ce n'est pas simplement les performances collectives, Ce modèle de la performance pèse sur les individus, me semble-t-il, puisque si on en croit là aussi toute une littérature et toute une managériale, l'individu au travail doit être constamment motivé. La motivation est quelque chose d'extrêmement important. À l'optimum de ses performances, est capable évidemment de communiquer en toute transparence avec ses supérieurs, ses subordonnés et ses collègues. En fait, si vous voulez, à travers la longue liste des aptitudes et des compétences qui sont déclinées dans les projets et dans les outils d'évaluation diverses, est mis en avant ce modèle de la performance individuelle qui ne souffrirait d'aucun défaut. Je pourrais vous donner de multiples exemples. Je vous renvoie un peu aux différents ouvrages. Simplement pour vous citer un document à propos des capacités des cadres. Il y a une longue liste, et ça se présente toujours comme ça, c'est-à-dire une liste dite de compétences ou de capacités sous forme d'items qui sont déclinées. Être autonome, animé, analyser un problème et décider en tenant compte de toutes les parties concernées, motiver ses subordonnés, négocier, obtenir des résultats de progrès, s'adapter, reconnaître ses erreurs, être imaginatif, être disponible, etc. Être une attitude qui est franche, qui agit, qui assume, qui veut la progression de l'entreprise et qui gagne. Si j'aurai le temps, je vous montrerai des outils d'évaluation de l'image personnelle et professionnelle qui se sont développés, notamment dans les entreprises de services publics. Vous trouvez la même chose. On liste en totalité une multitude de compétences. D'ailleurs, on est complètement dans le domaine imaginaire. C'est Superman, ça n'existe pas. Ce modèle est impraticable. Mais étant impraticable, il pèse néanmoins, je pense, sur les individus, est un des facteurs de stress et d'angoisse. Parce que peut-on être jamais sûr de ses compétences? Et dans ce modèle de la performance en faille, l'échec n'a pas de place. Pourquoi? Eh bien parce qu'on est dans le domaine un peu du fantasme de la maîtrise, j'allais dire, et de la puissance. Et ceux qui s'y laissent prendre tôt ou tard, quand ils tombent sur un problème qu'ils ne savent pas résoudre, comment ne pas tomber sur un problème qu'on ne sait pas résoudre dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'une carrière? D'ailleurs, l'échec, les difficultés peuvent être formateurs, condition d'en tirer les leçons. Eh bien, ceux qui s'y laissent prendre, d'une certaine façon, en subissent terriblement les compétences. Les compétences, les conséquences. Lapsus révélateur. Donc voilà ce modèle de la performance individuelle qui ne souffrirait d'aucun défaut. Et je dirais que ce modèle est associé à une implication totale. Finalement, il n'y a aucune part de l'individu. Ce n'est pas simplement, comme dans le temps, j'allais dire, c'est son habileté manuelle et ses mains, c'est il faut investir dans l'intelligence. On sera d'accord, il y a la mobilisation d'intelligence. Et on parle de révolution d'intelligence. Mais pas simplement. Il y a aussi d'autres choses, l'imagination, la créativité, la réactivité, et cette notion fourre-tout de savoir-être, qui intègre à la fois des dimensions professionnelles, mais aussi beaucoup de dimensions qui antérieurement relevaient de la vie privée ou de la vie sociale. Eh bien, grâce à cette notion de savoir-être, qui implique un type de comportement, l'individu serait totalement impliqué dans son activité. Et les compétences sont déclinées en autant de normes présentées comme des objectifs que finalement les salariés se doivent d'atteindre s'ils veulent s'adapter aux évolutions et, je dirais, garder leur emploi. Et comme le modèle de la référence est total et comme, je dirais, pratiquement impossible à atteindre, l'évaluation et la détermination de nouveaux objectifs, lui aussi, paraît sans fin. Je pense que cette vision poussée à l'extrême est proprement déshumanisante. Pourquoi? Parce que ce qui se trouve dénié, je ne nie pas qu'il y a nécessité d'évaluer les compétences, mais là on tombe, si vous voulez, dans une espèce d'inflation de méthodologies et d'outils, le tout accompagné par un jargon faussement savant et technicien qui déstructure le sens commun, vous envoie un certain nombre de notions qui sont absolument insignifiantes, proprement insignifiantes, et là je pense qu'on verse vers une déshumanisation du travail. D'ailleurs l'expression « monde du travail » est aujourd'hui complètement passée de mode, vous ne le trouvez plus. Il était d'ailleurs associé à une culture ouvrière. Or, on vous dira que cette culture, évidemment, est en train de disparaître, ce qui n'est pas totalement faux sur un certain nombre d'aspects. Mais je crois que ça va au-delà de ça. Ce n'est pas simplement, si vous voulez, les conditions de travail qui ne sont plus prises en considération. Je dirais que c'est l'expérience humaine que constitue le travail, c'est-à-dire la trame des rapports humains, de coopération dans le travail, qui se tisse de façon autonome. Et c'est précisément cette dimension qui donne du sens au travail. Hein. On n'arrête pas de parler du sens, comme si le sens a s'injecté d'en haut. Donner du sens, donner du sens. Mais excusez-moi, qui peut prétendre donner du sens et quelle est la mission dont on se réclame pour prétendre en donner aux autres ? Ce n'est pas simplement le fait qu'ils n'en demandent peut-être pas tant, mais c'est le fait aussi que le sens dans l'activité de travail, c'est quoi ? Dans l'entreprise, il y a un certain nombre de conditions concrètes, matérielles, avant de parler des valeurs, de l'éthique. Il y a une considération, il y a une rémunération, et il y a aussi ce qu'on appelle une ambiance de travail. Et cette ambiance de travail, c'est quelque chose d'assez, peut-être difficile à saisir, mais qui engage les rapports de coopération dans le travail et qui engage, je dirais, très directement le rapport avec sa propre hiérarchie. La qualité du rapport avec sa propre hiérarchie directe est un élément clé de cette ambiance. Et tout ça prend signification, sans que pour autant on le décrète et qu'on en rajoute. Donc je dirais volontiers que le travail n'est pas une simple affaire de compétences ou d'activités cognitives. Il n'est pas seulement un processus à rationaliser. Il est aussi un monde, un univers de signification dans lequel l'individu se confronte aux limites du possible. Il entre en coopération et en conflit avec d'autres, acquiert des habitudes et des valeurs qui sont constitutives de son identité. C'est précisément cette dimension-là qui se trouve absolument déniée dans cette approche. Troisième et dernier thème, la reconfiguration du pouvoir. Par reconfiguration du pouvoir, j'entends d'ailleurs deux choses. La façon dont le pouvoir dans l'entreprise, avec de nouvelles méthodes de management, est amené, je dirais, à se présenter et à se légitimer. Comment son action, ses décisions, ses choix sont-ils légitimés ? Et comment, d'autre part, vis-à-vis de ceux qu'il dirige, la façon dont il s'adresse à eux ? Là aussi, je crois qu'on a affaire à des choses nouvelles. D'abord, glissement sémantique à prendre en compte. Si vous prenez un peu les mots au pied de la lettre, moi, je crois que les mots, ce n'est pas simplement des instruments qu'on manie comme ça. Ce n'est pas grave du moment qu'on a des bonnes intentions. On est soi-même piégé par les mots. Eh bien, il n'y a plus de chef du personnel, bien évidemment. Il y a des gestionnaires. On ne commande plus les hommes, on les gère. Il n'y a plus, d'ailleurs, de contremaître. La figure du petit chef autoritaire est butée, quoique on la retrouve encore, mais liée au modèle taylorien, apparaît nettement en crise. Et à la place, par exemple, vous avez la fameuse formule animateur d'atelier auquel se rajoute un certain nombre de formateurs, de psychologues, et la figure du contremaître un peu, je disais, autoritaire et buté, tend à être supplantée par une espèce d'animateur d'atelier. Nous sommes dans l'ordre des représentations, entendons-nous bien. Il y a un écart considérable avec le réel. Mais quand vous regardez ces choses, vous apercevez que ces choses sont implicitement dites ou carrément dites. Première remarque. Deuxième remarque, les audits et les constats en tout genre, qui sont d'ailleurs souvent menés par des organismes extérieurs. Ce n'est pas le principe de l'audit, à mon avis, du conseil qui est forcément en cause. C'est la façon dont l'audit et le conseil est intégré dans un nouveau mode de légitimation des orientations et des choix effectués par les directions. Ces orientations et ces choix, me semble-t-il, tendent à ne plus s'affirmer clairement comme tels, mais sont censés émaner d'un constat neutre et objectif des évolutions et des dysfonctionnements. D'ailleurs, on peut y rajouter le point de vue des salariés. Mais on les présentera dans telle façon que les idées justes triomphent, si j'ose dire. C'est-à-dire les idées qui vont dans le sens, malgré tout, du changement souhaité par les directions. Encore une fois, ce n'est pas encore le principe de l'audit, mais il faut bien voir comment peuvent être manipulés cet audit et ces multiples audits, audits de compétences, hein, audits de l'organisation du travail, audits comptables, il y en a vraiment de plus en plus. Comment s'affirme le pouvoir ? Eh bien, il me semble que le pouvoir, de cette façon, se présente comme un gestionnaire des évolutions. Et paradoxalement, se présentant comme un gestionnaire des évolutions, il est sur le même plan que les autres. C'est un étrange et paradoxal pouvoir, en vérité. Pourquoi ? Eh bien, il s'affirme comme le pouvoir. Il dit « je suis la direction ». Mais en même temps, il s'efface. Et il dit « c'est moi qui dirige, mais ce n'est pas moi qui dirige ». Parce que qu'est-ce que vous voulez ? C'est un constat objectif et neutre, d'ailleurs. C'est garanti par un organisme extérieur. Ce n'est pas moi, à la limite, qui l'ai dit. Donc, eh bien, je suis gestionnaire des évolutions, qui sont en même temps des révolutions, par ailleurs. Et il ajoute, ce qui a de quoi déconcerter, vous et moi sommes embarqués dans le même bateau. Chose extraordinaire. Pourquoi ? Parce que je dirais qu'il y a un brouillage des responsabilités et des rôles et des écarts qui existent entre dirigeants et dirigés. Et ça, ça me paraît avoir une influence considérable en termes de démocratie. J'y reviendrai tout à l'heure. L'appel à l'autonomie et à la responsabilité brouille pareillement les repères. Chacun est censé être autonome et responsable, quelles que soient les conditions de travail, son statut, sa responsabilité. Et ce qu'on nomme l'auto-évaluation me paraît encore plus insidieux. Pourquoi ? Ben parce que quand vous regardez ce système d'auto-évaluation, j'ai quelques outils, et si on a le temps, on pourra les regarder. Comment ça se passe ? Eh bien, si on suit les choses, cette évaluation ne passe plus explicitement par la parole et le jugement de l'autre. L'autre, d'ailleurs, qui n'est pas simplement une autre individualité que la mienne, mais qui incarne une instance hiérarchique visible, représentative des exigences et des normes repérables aussi comme telles, est formulée comme telle par une institution. Bien, l'auto-évaluation, c'est quoi ? Ça s'effectue à l'aide d'un outil qui, si on suit les choses, renvoie à l'individu une image déformée de lui-même, le réduisant à une somme de compétences et à une machinerie plus ou moins bien adaptée à des évolutions, évolutions qui d'ailleurs imposent leurs propres normes. Si je pousse plus loin les engagements personnels demandés et les contrats, là aussi, engagement éthique. Qu'est-ce qu'il y a de plus autonome que l'éthique ? Qu'est-ce qu'il y a de plus... Qui peut être contre l'éthique ? Personne. Et contre les engagements personnels, ça part de l'individu, ça part de lui, ce n'est pas contraint. Eh bien, on va demander, par exemple, à des salariés de s'engager personnellement sur des clauses de fidélité, mais aussi sur des objectifs. Et on peut lui demander de signer des contrats. Contrats, d'ailleurs, qui n'ont aucune valeur juridique. Peut-être vous verrez ça, mais je crois qu'on n'a pas fini de voir en droit du travail un certain nombre de conflits de ce type, parce qu'ils peuvent faire jurisprudence, parce qu'on peut demander, notamment du point de vue de l'implication dans le travail, beaucoup plus, ce qui est nécessaire à la production et au développement de la, je veux dire, de la qualité. On peut chercher à aller plus loin. Donc tous ces aspects, à mon sens, participent de cette reconfiguration. D'ailleurs, certains conseillers en management, je dirais volontiers, disent un peu les choses clairement. À les entendre, il n'y a plus de domination ni de contrainte. Tout doit se faire par imprégnation. Au lieu d'intervenir, je cite, en prenant des mesures correctives, les dirigeants découvrent les moyens d'influer sur les motivations des individus en apprenant aux managers comment s'auto-contrôler et s'auto-corriger. Et cette aptitude à inculquer le sens de l'autodiscipline aux employés de terrain est devenue un moyen de contrôle nettement plus efficace que tout ce qu'ont pu réaliser les administratifs à partir des informations qui remontaient vers la direction générale grâce au système de contrôle. Cet autocontrôle, entre parenthèses, il passe quand même par l'affichage des normes. Et on va s'arranger d'ailleurs pour afficher les normes les plus performantes de telle façon à ce que chacun et chaque équipe puisse véritablement voir où il en est et développe une saine émulation. Voilà. Alors, je dirais volontiers, je l'ai écrit dans un de mes livres, que dans l'entreprise moderne, si on en suit le discours du management, le pouvoir se déploie maintenant par une intense activité communicationnelle placée sous le signe de la transparence. Les normes, les objectifs à atteindre ne seraient plus imposés par la contrainte et fixés autoritairement. Ils sont censés en fait être le résultat de bilans, d'audits en tout genre, aidés par des conseillers, et auxquels d'ailleurs, bilan et audit et normes auxquelles les salariés sont appelés évidemment à adhérer en toute transparence et en toute autonomie. L'écart entre cette idéologie et le réel est évidemment considérable. Et la question est souvent posée, est-ce que ça marche ? Je réponds, ça marche et ça marche pas, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Ça ne marche pas, pourquoi ? Parce que ces discours sont largement insignifiants. Parce que adhérer fortement à ce qui se présente souvent sous la forme d'une logomachie insignifiante, vide, où les notions se promènent, bien, je dirais qu'il faut peut-être avoir une perspective de carrière pour y adhérer. À ce moment-là, on instrumentalise. On peut aussi être fasciné par cette vision chaotique du monde. Il y en a, surtout quand on a un projet de carrière, dans certains milieux. Et puis, il y en a aussi qui vivent de cette logomachie, de ces outils. Mais comment la masse de ceux qui travaillent quotidiennement peuvent adhérer ? Donc, ça ne marche pas. Bien non, ça marche quand même. Ça marche comment ? Bien, ça ne marche pas par effet d'adhésion forte, mis à part un petit noyau. J'avais appelé d'ailleurs dans Anne Mélie, un chapitre, la fascination de quelques-uns et la sagesse du plus grand nombre. Et d'ailleurs, le salarié interrogé m'a dit, c'est pas des vieux singes qu'on apprend à faire les grimaces, donc on va pas me faire reparler le nouveau jargon, etc. Par contre, ça marche quand même. Pourquoi ? Eh bien, ça marche par effet de déstabilisation et non pas par effet d'adhésion. Je dis d'ailleurs souvent de façon un peu polémique que nous sommes passés de la période de la propagande avec un certain nombre de modèles forts et qui recherchent une adhésion, une identification forte. Ça existe toujours. Mais au règne de la communication qui, elle, tient un discours où les adhésions ne peuvent pas prendre véritablement corps, mais qui néanmoins agit par effet de déstabilisation, de stress. Et cette déstabilisation étant acquise, si je peux dire, eh bien, à ce moment-là, le terrain est propice à toutes les manipulations et, je dirais, à toutes les décisions qui peuvent s'imposer en coulisses. J'en ai fini de cette représentation des trois thèmes clés. Deux points que je voudrais souligner en conclusion. L'évolution de l'ordre productif. La différence peut paraître importante, effectivement, avec le XIXe siècle et le taylorisme. Au XIXe siècle, on agissait au nom d'un ordre productif. Et quand vous regardez les modalités qui existaient, notamment dans les règlements d'atelier, vous apercevez qu'il y avait une série d'interdictions, une série d'amendes, une série de contremaîtres qui étaient là pour contraindre et, je dirais, réprimer. Les interdictions étaient nombreuses, détaillées. Et dans ces interdictions, vous aviez cette part subjective de l'individu, qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on cherche à mobiliser, qui était rejetée en dehors de la production. Je cite des règlements d'atelier. Défense de jouer dans l'enceinte de l'usine, de discuter, de chanter, de siffler. Il est expressément descendu de siffler, de chanter, de lire à haute voix ou tenir des conversations de nature à troubler l'ordre. Mais management moderne vous dira, c'est une grave erreur. Maintenant, il faut arriver à recomposer ça et le mettre au service de l'optimum productif. Aujourd'hui, cet ordre productif ne se présente plus bardé de certitude ou de la notion d'ordre. Il prend acte de la crise des anciens modèles. Il se présente, encore une fois, sous la dimension de la complexité. Si on suivait d'ailleurs son discours, il audite et il gère les évolutions et les hommes. Il ne s'oppose plus frontalement à la subjectivité, mais tout au contraire de la mettre au service de l'optimum productif. Et en plus, il en appelle à l'autonomie et à la responsabilité de chacun. Je pense que je ne nierai pas les effets ambivalents de ces évolutions, notamment pour ceux qui travaillent. Parce qu'il y a une réelle aspiration à l'autonomie, une réelle aspiration, à la responsabilité, à des zones d'autonomie dans son travail. Ce qui m'importe ici, c'est comment elle est manipulée. Je dirais qu'à la contrainte externe succède l'intériorisation des contraintes et des normes, à l'aide, non pas des règlements d'atelier, d'un système de punition ou d'exclusion, mais je dirais à l'aide de multiples outils de management, évaluation de la performance individuelle et collective, et des outils de communication. Dernier point de questionnement, cette vision des évolutions, ce modèle de l'homme au travail, cette nouvelle figure du pouvoir, est-ce qu'on ne le retrouve pas aujourd'hui bien largement en dehors de l'entreprise ? Bien, je pense que si, et ça pose le problème de l'étrange, je dirais, démocratie dans laquelle nous vivons, et de l'étrange démocratie qui accompagne la modernisation. Puisque dans le cadre de la modernisation, les orientations, les choix, là aussi, nous sont souvent présentés comme le résultat de constats sociologiques et de constats des évolutions dans tous les domaines, auxquels on rajoutera la consultation des individus. C'est très paradoxal quand le pouvoir vous renvoie, j'allais dire, face à vous-même en disant « nous avons décidé ça, mais notre décision est le résultat d'un certain nombre de sondages d'audit ». D'ailleurs, c'est à peu près ce que vous avez dit. Alors ça devient très déconcertant. Que faire contre la dictature de la demande sociale ? Si gouverner des hommes, c'est répondre à la demande sociale et surfer sur la demande sociale, ou gérer cette demande sociale, tant bien que mal, eh bien les choses sont difficilement repérables. Et je dirais la dynamique démocratique de la contestation, du débat devient beaucoup plus difficile. Dernier point, le discours politique tend, à mon sens, lui-même à s'aligner sur celui du management et de la communication. Il y a un espèce, me semble-t-il, de rapprochement assez bizarre aujourd'hui, de petites phrases très déstabilisatrices sur les évolutions. Vous parlez de l'ordinateur, on va vous dire que le taylorisme est détruit par l'ordinateur, que la reconstruction de l'entreprise s'effectue autour du client roi et que grâce à l'informatique, les machines commandent désormais aux machines. J'aimerais qu'on s'arrête sur chacune de ces formulations qui sont données par des institutionnels. Ce qui est plus grave, à mon sens, parce que toute cette littérature a existé antérieurement autour de l'entreprise, c'est qu'elle a acquis une diffusion sociale assez inédite historiquement. Et le plus grave, à mon sens, c'est quand ceux qui ont la charge de l'institution commencent à parler de cette façon. Je crois, par exemple, quand on nous dit qu'il va falloir changer 3 fois de métier, je pose la question, pourquoi pas 4, pourquoi pas 2, pourquoi pas 1, et retourner à l'école, je voudrais savoir qu'on m'explique qu'est-ce que c'est le métier, qu'on définisse cette notion de métier. Et donc, là aussi, nous avons affaire, et force est de le constater, une sorte de révolution culturelle permanente. Je crois que ça s'inscrit dans une modernisation, cette idéologie managériale s'inscrit dans une modernisation qui, à mon avis, est en quête de légitimité et de sens. Et j'emploie une formule, une modernisation qui tourne à vide. On dirait que le mouvement de la modernisation, le changement, il faut d'ailleurs que chacun devienne acteur de son propre changement et se construise lui-même un projet qui va lui permettre de se projeter positivement dans l'avenir grâce à un parcours personnalisé dans lequel seront détaillées les différentes étapes, le tout avec l'aide de conseillers. Ce discours est omniprésent, vous l'entendez, il est souterrain et il pèse sur la société. Et on a l'impression que la finalité de cette modernisation, eh bien, c'est de s'adapter. Bien sûr qu'il y a une nécessité d'adaptation, mais la question, c'est pour aller où ? Ou alors l'important, c'est d'en être. Et l'important, c'est d'en être sans se poser la question de la finalité même de ce changement. Cette modernisation me semble, et c'est symptomatique de cette idéologie, en deuil d'un projet structurant. D'ailleurs, je pose la question, est-ce qu'une collectivité humaine peut vivre dans cette espèce d'instabilité permanente qu'on nous présente ? Les institutions qui perdurent, le droit du travail, les lois elles-mêmes, après tout, ça va constituer des obstacles au changement. Pourquoi ? Parce que ça fixe des cadres relativement stables, à l'intérieur duquel, des espaces à l'intérieur duquel, l'agir humain est possible. Eh bien, si je suis cette idéologie, là aussi, tout est bouleversé. Et on ne saurait passer outre, à mon avis, à une exigence de stabilité qui ne se confond pas avec le corporatisme. Et précisément, l'idéologie managériale rend le monde incompréhensible, insignifiant et vain, et je pense qu'elle rejoint la vision d'un monde entièrement soumis aux lois débridées du marché. Je pense qu'elle tente vainement de combler le vide d'un présent qui est particulièrement flottant. Le passé, face à ces évolutions, ne peut plus nous parler. D'ailleurs, tout ce qui est derrière nous est vraiment chamboulé. Mais l'avenir, pas plus. Désarticulé de l'histoire, désarticulé d'un passé et désarticulé de l'avenir, le présent est flottant. Et dans cette espèce de vide, eh bien, l'activisme managérial, l'activisme communicationnel tente de combler ce vide. Tel est, à mon avis, en fin de compte, un des traits essentiels du mal-être existentiel et social que la croissance économique retrouvée, à mon sens, ne sera pas du tout en mesure de dissiper. Voilà.
Merci Jean-Pierre Le Goff pour ces paroles. Le traditionnel jeu des questions. Une dame là-haut. Une dame là-bas. C'est madame, oui, allez-y.
Je voudrais savoir si dans d'autres pays que la France, des mots tels que le changement ont apparu avec une telle force et ont été utilisé à tel point par tous les idéologues, alors qu'il ne contient même aucune notion de progrès. Deuxième question, est-ce que cette exhortation à l'autonomie, qui correspond à quelque chose qui intéresse quand même les gens, ne va pas se heurter à la réalité collective des performances en réalité ? Troisième petite question, vous avez employé le terme de manipulation. Oui. S'il y a des manipulations, il y a des manipulateurs, quels sont-ils ?
Oui. J'ai commencé par le dernier. C'est plus compliqué parce que il y a des moi je pense pas qu'il y ait des. Enfin oui, il peut y avoir des individus cyniques et des pervers. Ça on est d'accord, mais je pense pas d'ailleurs qu'il y en a plus maintenant qu'avant. Il y en avait. Ils sont toujours là. Le problème c'est qu'ils ont peut-être plus d'espace qui leur sont donnés. Les manipulateurs, si vous voulez, bon, je pense qu'il y a des gens cyniques, mais le problème n'est pas là. Je pense que je vous ai parlé d'idéologie et de représentation. C'est là où ça devient compliqué. Parce que cette idéologie, c'est, il faut essayer de la mettre à distance. Et la mettre à distance, ce n'est pas évident. Personne ne peut être contre l'autonomie, la responsabilité. Personne ne peut être contre la transparence. D'ailleurs, le mot transparence, j'aimerais savoir ce que ça veut dire. Écoutez, il y en a partout et les décisions n'ont jamais été aussi opaques. Je ne crois pas... Moi, j'essaie, si vous voulez, de déterminer une logique, beaucoup plus que de dire « il y a des manipulateurs ». Il y en a, mais je pense qu'il faut mettre à jour la façon dont ils s'inscrivent dans un nouveau mode de pouvoir qui me paraît symbolique d'une crise, j'allais dire, des repères antérieurs du pouvoir. Avant, vous, je ne suis absolument pas nostalgique du passé, je pense une bonne fois pour toutes qu'on ne reviendra pas en arrière. Mais vous aviez une instance de pouvoir qui fixait clairement et de façon très répressive les choses. Celle-là, on a vu, elle est entrée en crise, elle est en partie derrière nous, elle peut revenir de façon réactive, notamment par rapport à ce nouveau courant. Mais elle est largement derrière nous. Eh bien, à ce modèle, dans cette crise du pouvoir, se développe une reconfiguration qui n'est pas consciente, forcément, où je dirais que le pouvoir tend à se faire invisible. Il se fait invisible parce qu'il sait qu'il a en face de lui des individus qui ont des exigences d'autonomie, d'une certaine façon, hein, et qui sont des aspirations à l'autonomie. Donc il ne peut plus, non plus, commander les hommes comme avant dans le travail. Alors il essaie, à sa façon, de récupérer cette dimension culturelle, et ça c'est l'idéologie managériale, pour, à mon avis, je dirais, la manipuler. Il y a des directions qui manipulent. Un des problèmes posés, c'est aussi le poids, non pas des cabinets d'audit et de conseil en eux-mêmes, mais le poids qu'ont acquis ces organismes extérieurs. Quand on entre dans un rapport marchand avec une direction, ce n'est pas vrai simplement que les choses sont si évidentes d'être neutres, objectifs. On est dans un rapport... Ou d'ailleurs, certains vous diront, faire bien son métier, c'est être capable de déceler et de faire émerger ce que veut la direction, qui souvent d'ailleurs fait appel à des conseils et des audits, de deux façons, soit pour légitimer une orientation qu'elle a déjà en tête, soit pour essayer de clarifier ses choix qui ne sont absolument pas clairs. Je vous signale d'ailleurs que la façon dont on mène les réformes, je ne suis pas contre consulter les gens, mais... Une chose extraordinaire, la réforme des lycées, par exemple. Il y a eu une consultation développée par des pédagogues avec un questionnaire. On a demandé aux lycéens, très bien qu'on demande l'avis des lycéens, mais la façon dont ensuite a été légitimée la réforme des lycées, on ne nous fera pas croire qu'il n'y avait pas quand même une petite idée de ce qu'il fallait faire et que ceux qui étaient en situation de responsabilité n'avaient pas une petite idée d'où aller. Eh bien oui, ils avaient certes une idée, mais enfin, ça vient d'en bas. Regardez la demande sociale d'éducation. Comment faire une réforme si on la commande par une demande sociale ? Encore une fois, rien de pire qu'être d'être dirigé au nom d'une demande sociale qu'on est d'ailleurs soi-même censé refléter. Là, la boucle est bouclée. C'est ça, si vous voulez, ce que j'essaie de démonter, c'est ces nouveaux mécanismes. Et ces nouveaux mécanismes sont proprement déconcertants par rapport à ceux qu'on connaissait avant. Je ne dis pas que les anciens n'existent plus, ils existent. Hein, mais ceux-là sont plus difficiles. Et je discutais d'ailleurs souvent avec des syndicalistes, qui me disait, mais souvent, vous savez, à la limite, on préférait un bon vieux patron réactionnaire, au moins on savait où on allait. À mon avis, c'est un faux choix, hein, on est d'accord. Mais là, vous avez cette figure très étrange du manager moderne qui a réponse à tout sans être convaincu de rien et qui est capable de vous écouter, qui est complètement sourd. Ça, ce sont des nouveaux types de paradoxes qui sont très difficiles à cerner, mais qui me semblent, si vous voulez... manifester quelque chose. D'ailleurs, la porte est toujours ouverte, je suis toujours prêt à discuter, mais pour dire quoi, exactement ? D'ailleurs, il y a des formations, à mon avis, qui forment à ça. Enfin, on pourrait prendre des exemples très concrets. Je m'arrête là. Attendez, j'ai pas fini. Sur l'autonomie... sur l'autonomie dans les autres pays, je n'ai pas d'exemple concret, mais je vous ai cité des exemples américains. Simplement, l'idée de changement, cette rhétorique du changement en France, à mon avis... Je ne vais pas faire l'historique. Je pense que le moment clé est le tournant de 1984, la modernisation. Le thème de la modernisation intervient dans un contexte très particulier. Très particulier où je dirais qu'il y a une crise du projet politique antérieur et que dans ce vide du modèle antérieur de la crise du projet politique, eh bien, la modernisation devient un thème qui va le supplanter. Et je dirais que cette modernisation, ce changement, c'est un peu la formule... Le mouvement est tout, le but n'est rien. Et pourquoi ? Parce que le but devient de plus en plus flou. quand le but, quand le projet est absent, quand le but devient flou, quand l'avenir, comme on dit, est incertain, eh bien, on s'oriente sur le comment et on en rajoute sur le comment et on est toujours dans ce vide.
Une question de madame.
Bonjour, bonsoir monsieur. Je voudrais savoir ce que vous pensez de ce nouvel outil d'utilisation qui s'appelle le 360 degrés.
Ah, je ne connais pas. Peut-être pouvez-vous me l'exposer, je ne connais pas le 360. Ouais,
c'est un outil d'évaluation. Il y a dedans une quarantaine de questions qui sont... Ce questionnaire est rempli par le supérieur hiérarchique, par des pairs et par des inférieurs hiérarchiques. Il est traité par une société d'études et il revient à la société avec les annotations.
Ouais. Bah, d'après ce que vous me dites, mais là il faudrait que j'ai l'outil dans les mains, pour le regarder, il ne me semble pas très différent de tout ce genre d'outils de manipulation qui peuvent exister. Je crois que cette question d'évaluation est pour moi une question essentielle et d'ailleurs je pense qu'elle devrait donner lieu à des batailles. Y compris du point de vue du contrôle des organisations syndicales sur ces évaluations. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui échappe complètement aux partenaires sociaux. Il y a quelque chose d'ailleurs qui échappe à la visibilité. Quand on parle de l'entreprise, personne n'est contre l'évaluation, personne n'est contre les outils d'évaluation. C'est normal d'évaluer après tout, je suis tout à fait d'accord. Mais quand on regarde le contenu, on s'aperçoit qu'on a des choses extrêmement bizarres que se développent par exemple dans les entreprises du service public, des outils qui vous font des photographies de personnalité, où cette notion de savoir-être intègre la loyauté, l'optimisme, le courage. On est complètement en dehors du droit du travail, et tout ça se fait souterrainement. C'est la face cachée de cette modernisation. Qui a le contrôle de ces outils ? Et ces outils, d'ailleurs, peuvent aller plus loin. Elles peuvent servir en partie de base en disant « Regardez, les métiers ont évolué ». Alors, vous savez, il y a ces fameuses compétences dites comportementales et relationnelles, et c'est vrai en partie que ces compétences ont évolué, mais enfin, comportementales et relationnelles, oui, mais dans le travail. Hein, ce n'est pas le comportemental en soi, ni le relationnel en soi, dans la famille, etc. Et encore une fois, j'indiquais tout à l'heure une des choses particulières, le savoir-être. Ça, c'est l'élément déterminant. Mais qu'est-ce que c'est que cette notion de savoir-être ? Quelle est son origine ? D'où vient-elle ? Qu'implique-t-elle ? Eh bien, quand vous regardez ce qu'on met dedans, et je l'ai regardé sur un certain nombre de choses, c'est proprement aberrant. Il y a la fidélité à l'entreprise. Il y a des organismes de conseil qui vous disent « Mais dans le savoir-être, c'est le comportement loyal. C'est revenir le dimanche quand on vous le demande, etc. » On est dans l'idéologie. Et je pense qu'il y a une exigence de rigueur dans les notions et dans ces outils d'évaluation, parce qu'on peut, par ces outils, vous faire passer beaucoup de choses. Et comme c'est un outil, que dire ? Encore une fois, j'ai une intention et j'ai des outils. Qu'est-ce que vous voulez me dire ? Je suis... Et ça, c'est précisément cette logique qu'il s'agit d'essayer d'interpeller en restant et en faisant connaître ces outils et en restant au plus près des pratiques. Et moi, personnellement, j'insiste beaucoup pour que ces outils soient connus dans l'espace public, qu'on les rassemble et qu'on appelle à l'opinion en disant « Voilà ce type d'évaluation. Est-ce que c'est normal, même si la modernisation est nécessaire, même si le développement de la productivité, de la qualité, on en sera d'accord, sont nécessaires, est-ce qu'il est normal et légitime dans une société démocratique qu'on arrive à ce genre de choses, à des descriptifs de la personnalité avec je ne sais pas combien d'items, et qui sont censés renvoyer et travailler sur des domaines qui étaient de l'ordre de la liberté individuelle ?
Monsieur. Oui, on a compris que dans ce que vous nous avez dit concernant le vocabulaire, que les mots ont une importance extrêmement importante dans les processus de domination. Et que, effectivement, moi j'ai retenu deux choses dans ce que vous avez dit. Vous employez souvent le mot idéologie. Effectivement, et par rapport à ces processus de domination, on emploie le mot éthique. Et je me disais, finalement, quelle est la différence entre éthique et idéologie ? Parce que dans éthique, on y voit, enfin moi j'y vois, une espèce de moralisation, qui finalement, est-ce que ce ne serait pas le cache-sexe de l'idéologie, finalement, derrière ça ?
Alors, deux mots là-dessus. Personne n'est contre l'éthique. D'ailleurs, c'est désarmant qui peut être contre l'éthique. Enfin, bon, surtout que ça a une dimension, quand même, c'est mieux que la morale. La morale, ça, c'est un peu le 19e siècle. L'éthique, c'est bon. Moi, personnellement, je crois qu'il y a une éthique des dirigeants. Je pense que des dirigeants ont leurs propres convictions, et je n'ai rien contre. La seule première question, je préfère d'ailleurs avoir des travailler avec des DRH ou des dirigeants qui ont des convictions, plutôt avec la figure du manager moderne qui a réponse à tout et parfait cynique, etc. La première remarque, il n'y a pas de ligne droite entre la conviction des dirigeants et le collectif. C'est ça le premier problème. Et notamment, ça pose le problème d'une partie du patronat chrétien qui, me semble-t-il, partant d'une éthique, qu'encore une fois je respecte, fait vite le lien avec le collectif. On sait qu'il y a des formes de despotisme par amour qui sont redoutables, si vous voulez, surtout quand on est dans une entreprise. Pourquoi ? Parce que le premier principe du management, c'est reconnaître qu'à côté de vous existent d'autres individus que vous, qui n'ont pas le même type d'implication. Et même si vous leur donnez beaucoup d'amour, eh bien, les respecter, ça veut dire reconnaître qu'ils sont différents. Premier usage entrepreneurial de l'éthique des dirigeants. Et là, il y a une réflexion personnelle que je trouve légitime. Deuxième usage, la culture d'entreprise, les valeurs, c'est aussi de l'éthique. La culture commune. Alors là aussi, il y a une dimension d'une zone de déontologie professionnelle en entreprise qui me paraît réelle. Mais ça déborde. C'est tout et n'importe quoi, ces valeurs. Ce sont des bons comportements. Et puis, troisième utilisation entrepreneuriale de l'éthique, l'usage qui est en effet dans le rapport qu'entretient l'entreprise avec le reste de la société. L'éthique citoyenne. Il y a même, j'ai appris ça, des produits citoyens. Et on va investir dans l'éthique citoyenne. Très bien, si des individus veulent le faire, très bien. Mais attention, j'aimerais savoir ce que c'est qu'un produit citoyen. Je trouve que d'ailleurs, le mot citoyenneté perd toute consistance. Bon, les entreprises d'ailleurs elles-mêmes sont citoyennes. On colle un concept politique à une réalité qui ne l'est pas. Donc on est dans ce domaine-là, effectivement. Je distinguerai une réflexion légitime sur l'éthique qui, à mon avis, doit être personnelle et n'a de sens qu'en situation, et qui renvoie à la liberté, à l'autonomie personnelle de l'individu, y compris des cadres et des dirigeants. Là, elle me semble légitime. Attention à ne pas passer de son éthique personnelle à l'éthique collective. Pour le reste, je trouve qu'on est dans l'idéologie, et je trouve qu'on est largement, et plus que ça, dans la confusion.
Question de ce côté-ci.
Oui, bonsoir, et bravo pour votre exposé. Ce que vous avez dit est, de mon point de vue, tout à fait vrai. En effet, on a commencé d'abord par transformer les directions du personnel en directions de ressources humaines. Ce changement sémantique n'est pas dépourvu de sens, puisque l'homme n'est plus considéré comme une personne, on l'a transformé en simple ressource, autrement dit une machine à produire. Il devient un simple moyen de production au bénéfice des nantis, des tenants d'une idéologie aliénante et même méprisante. Les ravages de la dictature libérale sont connus. La mondialisation va certainement les aggraver. Que faire pour renverser la situation afin que l'homme soit de nouveau traité tout simplement comme un être humain, capable de réussite, mais aussi d'échec? Comment mettre un terme, ou du moins stopper, cette spirale infernale qui avilit l'homme et la femme? Merci.
C'est des grandes questions. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Je vais essayer de... D'abord, sur cette question du libéralisme, ma façon de raisonner est un peu particulière. Si vous voulez, je ne pense pas qu'il y ait une logique, bien sûr, ce qu'on appelle la dictature des marchés. Mais la vraie question, pour moi, ce n'est pas de dire dictature des marchés, c'est pourquoi ils triomphent. Qu'est-ce qu'il y a en face ? Je déplacerai la question. L'idéologie du management et les représentations du management, elles vont à un moment donné rejoindre l'idéologie libérale, c'est-à-dire une représentation du monde qui fait du marché le fondement du réel. Et le marché, vous le laissez courir, j'allais dire, mais c'est une idéologie. Vous trouvez d'ailleurs très peu de libéraux qui vont les défendre de façon aussi pure. Mais ce qui m'intéresse là aussi, c'est de voir que, bien sûr, ça rejoint l'idéologie libérale, mais il y a quelque chose qui est un peu en amont, qui est la crise, encore une fois, une crise culturelle des repères symboliques des pouvoirs. Et en fait, on a assisté à deux phénomènes. On a assisté, il faudrait revenir sur le moment très paradoxal que représente mai 68, du point de vue de la déstructuration, j'allais dire, des repères antérieurs de l'autorité, des figures de la hiérarchie et des pouvoirs. Ce moment très paradoxal, qui est un moment de crise culturelle très important, et cette logique libérale. Et personnellement, je ne parle pas en termes d'économie ou de dictature qui entraînerait mécaniquement ces représentations comme une espèce d'infrastructure. Je pense qu'il y a des évolutions qui, à un moment donné, se conjuguent et dessinent une sorte de nouvelle configuration sociale. Et finalement, cette représentation d'un individu complètement autonome, c'est la représentation, on l'a dit, d'un entrepreneur. Cette représentation d'une vision chaotique du monde, elle rejoint à un moment donné l'idée complètement, là aussi fantasmatique, d'un marché qui pourrait, j'allais dire, fonctionner tout seul. Voilà, alors les solutions, je ne les ai pas. Ce que je pense, par contre, c'est... je pense qu'il y a une bataille... je ne vais pas employer le mot citoyen, parce que ça ne sert plus à rien, mais il y a... on parle beaucoup d'éthique, j'estime qu'il y a... User correctement du langage est une dimension éthique, pour le coup. C'est-à-dire, faire attention... c'est une exigence assez forte, parce que vis-à-vis de soi-même, on est toujours piégé. Mais essayer de combattre cette forme de logomachie qui est une machinerie de l'insignifiance, qui détruit les repères pour débattre et agir, et qui laisse les gens dans le désarroi. Quand vous avez cette logomachie tout le temps, je veux dire, quand vous l'écoutez tout le temps, quand je dis le monde est vain, il est particulièrement difficile de vouloir agir. À quoi ça sert ? D'ailleurs, à quoi ça sert ? On est en train de discuter de quelque chose, mais à quoi d'ailleurs ? Pourquoi discuter ? Parce que dans 5 minutes, il y aura quelque chose de nouveau, et n'importe comment, on n'y peut rien, ça évolue comme ça. Ça devient, si vous voulez, et ça est très... combattre ça est très difficile. Donc je pense qu'il y a une logique, j'appellerai du grain de sable dans cette machinerie, qui commence par une forme, je dirais presque de dissidence. Rien n'oblige après tout à accepter la logomachine, un certain type de management. Je sais que ça demande du courage, surtout c'est celui qui tient ce discours et votre propre hiérarchie qui vous évalue. Mais enfin, il y a de l'humour. Par exemple, le parler creux sans peine... c'est un document qui circule dans un certain nombre d'entreprises. Les salariés, si vous voulez, essaient précisément de lutter contre cette logomachie. Alors, c'est assez tout à fait intéressant parce que, je n'ai pas la totalité du document, mais simplement, vous pouvez croiser comme ça, vous voyez, l'excellence renforce les facteurs institutionnels de la performance, mais vous pouvez dire aussi, l'excellence mobilise les paramètres analytiques du projet. De même que... la formation modifie les changements qualitatifs du dispositif. Tout le monde, je crois, sera d'accord. Je trouve que cette forme, c'est une petite chose, mais quand ça circule dans une entreprise, la logomachie, je pense, peut en prendre un sérieux coup. Deuxième aspect, je pense qu'il y a un contrôle des syndicats sur ces choses. Ça commence, il y a eu des batailles sur des outils, notamment... d'évaluation des personnalités avec appel justement à la Commission des libertés, parce que ça peut aller très loin. Mais ce sont, à mon avis, des nouveaux champs qui s'ouvrent et qui sont encore largement, à mon sens, à défricher.
On va prendre 3 petites questions. Merci d'être précis et clair.
Oui, bonsoir monsieur. D'après ce que vous avez dit, il faudrait donc chercher à donner du sens à toute démarche. Moi, j'ai pensé à une chose, rechercher l'optimum productif de services humains. C'est-à-dire qu'il faut agir pour qu'en fait, il y ait plus de possibilités d'être autonome, mais socialement. Sinon, le monde est chaotique. C'est ce qui se produit, d'après ce que vous dites. En fait, il faudrait donc apporter de la considération à l'état social de l'homme. Ce n'est pas seulement la machine. Moi, je pense que je rêve, c'est-à-dire que je pense à la possibilité d'instaurer, par la cogestion, etc., des sociétés assez autonomes et performantes pour permettre à ce que l'homme ait plus de possibilités d'être autonome, justement, en tournant rond. Vous êtes d'accord ? Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Moi, je ne suis pas contre la performance, je suis contre un modèle de la performance sans faille, ce qui est un peu différent. Être contre la performance en soi, de même que pour les objectifs de qualité et de productivité, la question, c'est à quel prix humain ? C'est ça la question. Et qu'est-ce que c'est le management ? Je pense d'ailleurs, peut-être pouvons-nous rêver d'une société où se réconcilierait une espèce de réconciliation entre les différentes sphères de l'économique, du social. Je n'y crois pas personnellement. Je pense qu'un des problèmes est précisément, et c'est jamais donné à l'avance, c'est l'ajustement de ces différentes dimensions. Et réconcilier l'homme avec l'économie, oui, mais en sachant que ça ne sera pas une vaste synthèse harmonieuse, que ça dépend là aussi largement. En partie aussi des dimensions, j'allais dire, proprement politiques, et pas simplement dans une dimension qui serait une gestion étroite des choses.
Question de madame, et on finira par madame.
Je voudrais simplement savoir où s'étend le dommage, parce que je trouve que c'est très rafraîchissant, cet esprit critique que vous avez. Mais j'espère que ça ne touche pas quand même toutes les entreprises. Pas pas toutes les PME, par exemple.
Non, mais vous avez raison sur un point. Je vous ai dit au départ, et je le répète, que je ne prétends pas dresser un tableau général. Il y a un constat sociologique, d'autres peuvent le faire. Et ils vous diront qu'il n'y a pas que ce modèle, qu'il y en a d'autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu ma spécificité, c'est d'essayer de regarder comment se développe, plus ou moins consciemment, un type de modèle, et je le vois de plus en plus transversal aux activités sociales. J'ai parlé de l'entreprise, on pourrait parler des entreprises de services publics, on pourrait parler de l'hôpital, on pourrait parler aussi de l'école, où un ministre nous disait récemment qu'il faut pénétrer l'esprit d'entreprise à l'école, il faut faire pénétrer l'esprit d'entreprise à l'école. Très bien, qu'est-ce qu'on met dessous ? Et les outils managériaux, le management, cette espèce de fascination pour cette idéologie, encore une fois, le problème, à mon avis, le plus grave, c'est quand cette fascination atteint ceux qui ont la responsabilité des institutions.
Dernière question avec madame.
C'est une dernière question, puis elle risque d'être un peu désagréable, parce que moi, j'ai été très déçue par ce que vous racontez, donc je n'ai pas applaudi.
J'applaudis pas. Droit.
Et bon, alors, rapidement, le portrait des précieuses ridicules de notre époque, à savoir les managers, et vous reprenez ce vieux mot en vieux marxien d'idéologie, là, que vous remettez, que vous regonflez. Alors il est très juste et très drôle, c'est tout à fait vrai, vous avez parfaitement raison. Bon, mais je pense aller à un essentiel que vous n'avez fait que toucher, c'est la crise du politique. Parce que si nous les vieux marxiens, marxistes, on n'a pas pris, je crois, assez au sérieux, mais oui. On n'a pas pris, je crois, assez au sérieux que l'économie est politique de Marx, parce qu'on l'a entendu comme l'économie devient politique, alors que je crois qu'il faut l'entendre, et c'est ce qui se passe maintenant, comme la politique devient économique. Enfin, l'économie est politique. Elle l'est, il n'y a pas de distinction entre les deux. Alors, la question, alors, brutalement par exemple, la question c'est... Ce dont vous ne parlez pas non plus, c'est de la technique, la question de la technique, d'accord, vous faites une charge, la charge habituelle d'ailleurs des journalistes français contre la technique, enfin bon. Bon, mais oui, les technologies déshumanisantes, etc., en ressortant le vieux discours de l'humanisme de gauche personnalisant, etc., qui d'ailleurs est d'origine chrétienne. Bon. Enfin, je vais très vite.
Vous allez très vite.
Alors, oui, pour parler vieux marxien, oui. Il faut mettre les gens au travail. Il faut les. C'est la question de toutes les sociétés ont deux problèmes, d'accord. Je sais, je vais faire l'avocat du diable. Les sociétés ont deux problèmes. Distribuer de façon inégale les revenus. Toute société est fondée sur une distribution inégalitaire des revenus. Et deux, sur, pour le faire, un monopole de la violence légitime, comme disait Max Weber, d'où la question de l'État. Et la deuxième question, c'est il faut les faire travailler, ils ne veulent pas travailler.
Non. Je peux répondre en deux mots. Oui. Non, mais bon, je pense qu'il faut faire attention à la stratégie des étiquettes. D'abord sur Marx. Moi, je vais vous dire, je pense que dans Marx, il y a des choses intéressantes, notamment sa critique des idéologies. À la différence près, et c'est en ce sens-là où je ne me sens pas marxiste, c'est que je ne crois pas que les représentations soient le produit d'une infrastructure et soient simplement au service mécaniquement de cette infrastructure économique. Donc, en ce sens-là, je pense que l'œuvre, il faut prendre Marx comme une œuvre de pensée, avec des choses intéressantes dedans, et avoir un rapport extrêmement libre. Mais j'essaie de l'avoir, mais je ne me définis pas marxiste comme on se définit. Alors, il y avait les existentialistes, il y avait les marxistes, il y avait tous ces mots en isme. Personnellement, je ne crois pas y participer. La crise du politique, je crois que vous touchez l'essentiel. Mais ce n'est pas simplement la crise du politique économique. On est dans un économisme dominant. Et cet économisme dominant, aujourd'hui, il est symptomatique du vide, du projet politique structurant. Et à mon avis, d'une désarticulation de la dimension historique. C'est-à-dire que tout projet politique s'inscrivait dans une histoire. Et l'action des hommes antérieurement s'inscrivait dans une certaine représentation de l'histoire où pouvait être fait un pont entre un certain nombre de ressources qui nous venaient du passé et l'avenir. Nous sommes dans une situation très particulière, et cette idéologie managériale précisément est symptomatique de ça, où l'histoire, on arrive, je dirais que la société n'arrive plus, et le politique n'arrive plus à rembrayer sur la dimension de l'histoire. Et encore une fois, je l'ai dit à la fin de mon exposé, c'est un élément, un des éléments qui en partie permet d'expliquer la difficulté de la situation dans laquelle nous sommes. Quant à la technologie, je tiens à vous signaler que je ne suis absolument pas contre Internet. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je m'en sers. Je m'en sers beaucoup plus du mail, d'ailleurs, que d'Internet, mais qu'importe. Je suis équipé moyennement. Donc, à mon avis, je n'ai absolument aucune vision antitechnologique. Mais ce qui m'importe, et ça, c'est de voir que ces évolutions auxquelles il y a une dimension d'adaptation suscitent à chaque fois un certain nombre de fantasmes. Réactive d'ailleurs des choses qui ne sont pas si nouvelles que ça, et qu'il importe d'un point de vue démocratique d'opérer un recul réflexif et critique sur ces représentations qui accompagnent des évolutions technologiques réelles. Je ne suis pas pour revenir du tout là aussi en arrière. Donc je pense que il faut faire attention à la stratégie des étiquettes. Je pense que la description que vous avez donnée de mes positions, personnellement, je ne m'y retrouve pas du tout.